Jules Verne, Robur le Conquérant, chapitre 4, dans lequel, à propos du valet Fricolin, l'auteur essaie de réhabiliter la lune. Certes, et plus d'une fois déjà, à la suite de discussions orageuses, au sortir de leur séance, les membres du Weldon Institute avaient rempli de clameurs Walnut Street et les rues adjacentes. Plus d'une fois, les habitants de ce quartier s'étaient justement plaints de ces bruyantes queues de discussion, qui les troublaient jusque dans leur domicile. Plus d'une fois, enfin, les policemen avaient dû intervenir pour assurer la circulation des passants, la plupart très indifférents à cette question de la navigation aérienne. Mais avant cette soirée, jamais ce tumulte n'avait pris de telles proportions. Jamais les plaintes n'eussent été plus fondées. Jamais l'intervention des policemen plus nécessaire. Toutefois, les membres du Weldon Institute étaient quelque peu excusables. On n'avait pas craint de venir les attaquer jusque chez eux. À ces enragés du plus léger que l'air, un non moins enragé du plus lourd avait dit des choses absolument désagréables. Puis, au moment où on allait le traiter comme il le méritait, il s'était éclipsé. Or, cela criait vengeance. Pour laisser de telles injures impunies, il ne faudrait pas avoir du sang américain dans les veines. Des fils d'Amérique traités de fils de cabots. N'était-ce pas une insulte, d'autant plus impardonnable qu'elle tombait juste, historiquement? Les membres du club se jetèrent donc par groupes divers dans Walnut Street, puis au milieu des rues voisines, puis à travers tout le quartier. Ils réveillèrent les habitants. Ils les obligèrent à laisser fouiller leur maison, quitte à les indemniser plus tard, du tort fait à la vie privée de chacun, laquelle est particulièrement respectée chez les peuples d'origine anglo-saxonne. 20 déploiements de tracasseries et de recherches. Robur ne fut aperçu nulle part. Aucune trace de lui. Il serait parti dans le Go-Ahead, le ballon du Weldon Institute, qu'il n'aurait pas été plus introuvable. Après une heure de perquisition, il fallut y renoncer. Et les collègues se séparèrent, non sans s'être juré d'étendre leurs recherches à tout le territoire de cette double Amérique qui forme le nouveau continent. Vers 11 heures, le calme était à peu près rétabli dans le quartier. Philadelphie allait pouvoir se replonger dans ce bon sommeil, dont les cités, qui ont le bonheur de n'être point industrielles, ont l'enviable privilège. Les divers membres du club ne songèrent plus qu'à regagner chacun son chez-soi. Pour n'en nommer que quelques-uns des plus marquants, William T. Forbes se dirigea du côté de sa grande chiffonnière à sucre, où Miss Doll et Miss Matt lui avaient préparé le thé du soir, sucré avec sa propre glucose. Truck Milner prit le chemin de sa fabrique, dont la pompe à feu haletait jour et nuit, dans le plus reculé des faubourgs. Le trésorier James Sipp, publiquement accusé d'avoir un pied de plus d'intestin que n'en comporte la machine humaine, regagna la salle à manger où l'attendait son souper végétal. Deux des plus importants ballonistes, deux seulement, ne paraissaient pas songer à réintégrer de sitôt leur domicile. Ils avaient profité de l'occasion pour causer avec plus d'acrimonie encore. C'étaient les irréconciliables Oncle Prudent et Phil Evans, le président et le secrétaire du Weldon Institute. À la porte du club, le valet Fricolin attendait Oncle Prudent, son maître. Il se mit à le suivre, sans s'inquiéter du sujet qui mettait aux prises les deux collègues. C'est par euphémisme que le verbe « causer » a été employé pour exprimer l'acte auquel se livraient de concert le président et le secrétaire du club. En réalité, ils se disputaient avec une énergie qui prenait son origine dans leur ancienne rivalité. « Non, monsieur, non !» répétait Phil Evans. « Si j'avais eu l'honneur de présider le Weldon Institute, jamais !» Non, jamais il ne se serait produit un tel scandale. « Et qu'auriez-vous fait, si vous aviez eu cet honneur ?» demanda Oncle Prudent. « J'aurais coupé la parole à cet insulteur public, avant même qu'il eût ouvert la bouche. » « Il me semble que pour couper la parole, il faut au moins avoir laissé parler. Pas en Amérique, monsieur, pas en Amérique. » Et tout en se renvoyant des réparties plus aigres que douces, ces deux personnages enfilaient des rues qui les éloignaient de plus en plus de leur demeure. Ils traversaient des quartiers dont la situation les obligerait à faire un long détour. Fricolin suivait toujours, mais il ne se sentait pas rassuré à voir son maître s'engager au milieu d'endroits déjà déserts. Il n'aimait pas ces endroits-là, le valet Fricolin, surtout un peu avant minuit. En effet, l'obscurité était profonde et la lune, dans son croissant, commençait à peine à faire ses 28 jours. Fricolin regardait donc à droite, à gauche, si des ombres suspectes ne les épiaient point. Et précisément, il crut voir 5 ou 6 grands diables qui semblaient ne pas les perdre de vue. Instinctivement, Fricolin se rapprocha de son maître. Mais pour rien au monde, il n'eût osé l'interrompre, au milieu d'une conversation dont il aurait reçu quelques éclaboussures. En somme, le hasard fit que le président et le secrétaire du Weldon Institute, sans s'en douter, se dirigeaient vers Fairmount Park. Là, au plus fort de leur dispute, ils traversèrent la Schuylkill River sur le fameux pont métallique. Ils ne rencontrèrent que quelques passants attardés et se trouvèrent enfin au milieu de vastes terrains, les uns se développant en immenses prairies, les autres ombragés de beaux arbres, qui font de ce parc un domaine unique au monde. Là, les terreurs du valet Fricolin l'assaillirent de plus belle, et avec d'autant plus de raison que les 5 ou 6 ombres s'étaient glissées à sa suite par le pont de la Schuylkill River. Aussi avait-il la pupille de ses yeux si largement dilatée qu'elle s'agrandissait jusqu'à la circonférence de l'iris. Et en même temps, tout son corps s'amoindrissait, se retirait, comme s'il eût été doué de cette contractilité spéciale aux mollusques et à certains animaux articulés. C'est que le valet Fricolin était un parfait poltron. Un vrai nègre de la Caroline du Sud, avec une tête de bécasse sur un corps de gringalet. Tout juste âgé de 21 ans, c'est dire qu'il n'avait jamais été esclave, pas même de naissance, mais il n'en valait guère mieux. Grimacier, gourmand, paresseux, et surtout d'une poltronnerie superbe. Depuis 3 ans, il était au service de Oncle Prudent. 100 fois, il avait failli se faire mettre à la porte. On l'avait gardé, de crainte d'un pire. Et pourtant, mêlé à la vie d'un maître toujours prêt à se lancer dans les plus audacieuses entreprises, Fricolin devait s'attendre à maintes occasions dans lesquelles sa couardise aurait été mise à de rudes épreuves. Mais il y avait des compensations. On ne le chicanait pas trop sur sa gourmandise, encore moins sur sa paresse. Ah, valet Fricolin, si tu avais pu lire dans l'avenir. Aussi, pourquoi Fricolin n'était-il pas resté à Boston, au service d'une certaine famille Sneffels, qui, sur le point de faire un voyage en Suisse, y avait renoncé à cause des éboulements. N'était-ce pas la maison qui convenait à Fricolin, et non celle de Oncle Prudent, où la témérité était en permanence? Enfin, il y était. Et son maître avait même fini par s'habituer à ses défauts. Il avait une qualité d'ailleurs. Bien qu'il fût nègre d'origine, il ne parlait pas nègre. Ce qui est à considérer, car rien de désagréable comme cet odieux jargon dans lequel l'emploi du pronom possessif et des infinitifs est poussé jusqu'à l'abus. Donc, il est bien établi que le valet Fricolin était poltron, et ainsi qu'on le dit, poltron comme la lune. Or, à ce propos, il n'est que juste de protester contre cette comparaison insultante pour la blonde Phébé, la douce Hélène, la chaste sœur du radieux Apollon. De quel droit accuser de poltronnerie un astre qui, depuis que le monde est monde, a toujours regardé la terre en face, sans jamais lui tourner le dos? Quoi qu'il en soit, à cette heure, il était bien près de minuit, le croissant de la pâle calomniée commençait à disparaître à l'ouest, derrière les hautes ramures du parc. Ses rayons, glissant à travers les branches, sema quelques découpures sur le sol. Les dessous du bois en paraissaient moins sombres. Cela permit à Fricolin de porter un regard plus inquisiteur. « Brrr !» fit-il. « Ils sont toujours là, ces coquins. » Positivement, ils se rapprochent. Il n'y tint plus, et allant vers son maître, « Master Oncle, » dit-il. C'est ainsi qu'il le nommait, et que le président du Weldon Institute voulait être nommé. En ce moment, la dispute des deux rivaux était arrivée au plus haut degré. Et comme ils s'envoyaient promener l'un l'autre, Fricolin fut brutalement prié de prendre sa part de cette promenade. Puis, Tandis qu'ils se parlaient les yeux dans les yeux, Oncle Prudent s'enfonçait plus avant à travers les prairies désertes de Fairmount Park, s'éloignant toujours de la Schuylkill River et du pont qu'il fallait reprendre pour rentrer dans la ville. Tous trois se trouvèrent alors au centre d'une haute futaie d'arbres, dont la cime s'imprégnait des dernières lueurs lunaires. À la limite de cette futaie s'ouvrait une large clairière, vaste champ ovale, merveilleusement disposé pour les luttes d'un ring. Pas un accident de terrain n'y eût gêné le galop des chevaux. Pas un bouquet d'arbres n'aurait arrêté le regard des spectateurs, le long d'une piste circulaire de plusieurs milles. Et cependant, si Oncle Prudent et Phil Evans n'eussent pas été occupés de leur dispute, s'ils avaient regardé avec quelque attention, ils n'auraient plus retrouvé à la clairière son aspect habituel. Était-ce donc une minoterie qui s'y était fondée depuis la veille? En vérité, on eût dit une minoterie, avec l'ensemble de ses moulins à vent, dont les ailes, immobiles alors, grimaçaient dans la demi-ombre. Mais ni le président ni le secrétaire du Weldon Institute ne remarquèrent cette étrange modification apportée au paysage de Fairmount Park. Fricolin n'en vit rien non plus. Il lui semblait que les rôdeurs s'approchaient, se resserraient comme au moment d'un mauvais coup. Il en était à la peur convulsive, paralysé dans ses membres, hérissé dans son système pileux. Enfin, au dernier degré de l'épouvante. Toutefois, pendant que ses genoux fléchissaient, il eut encore la force de crier une dernière fois. « Master Oncle ! Master Oncle ! Eh ! Qu'y a-t-il donc à la fin ?» répondit Oncle Prudent. Peut-être Phil Evans et lui n'auraient-ils pas été fâchés de soulager leur colère en rossant d'importance le malheureux valet. Mais ils n'en eurent pas le temps, pas plus que celui-ci n'eut le temps de leur répondre. Un coup de sifflet venait d'être lancé sous bois. À l'instant, une sorte d'étoile électrique s'alluma au milieu de la clairière. Un signal, sans doute. Et dans ce cas, c'est que le moment était venu d'exécuter quelque œuvre de violence. En moins de temps qu'il n'en faut pour l'imaginer, six hommes bondirent à travers la futaie. Deux sur Oncle Prudent, deux sur Phil Evans, deux sur le valet Fricolin. Ces deux derniers de trop, évidemment, car le nègre était incapable de se défendre. Le président et le secrétaire du Weldon Institute, quoique surpris par cette attaque, voulurent résister. Ils n'en eurent ni le temps ni la force. En quelques secondes, rendus à faune par un bâillon, aveugles par un bandeau, maîtrisés, ligotés, ils furent emportés rapidement à travers la clairière. Que devaient-ils penser, sinon qu'ils avaient affaire à cette race de gens peu scrupuleux qui n'hésitent point à dépouiller les gens attardés au fond des bois? Il n'en fut rien, cependant. On ne les fouilla même pas, bien que Oncle Prudent eût toujours sur lui, suivant son habitude, quelques milliers de dollars papier. Bref, une minute après cette agression, sans qu'aucun mot eût été échangé entre les agresseurs, Oncle Prudent, Phil Evans et Fricolin sentaient qu'on les déposait doucement. Non sur l'herbe de la clairière, mais sur une sorte de plancher que leur poids fit gémir. Là, ils furent à côté l'un près de l'autre. Une porte se referma sur eux. Puis le grincement d'un pin dans une gâche leur apprit qu'ils étaient prisonniers. Il se fit alors un bruissement continu, comme un frémissement, un fr dont les r se prolongeaient à l'infini, sans qu'aucun autre bruit fût perceptible au milieu de cette nuit si calme. Quel émoi le lendemain dans Philadelphie! Dès les premières heures, on savait ce qui s'était passé la veille à la séance du Weldon Institute. L'apparition d'un mystérieux personnage, un certain ingénieur nommé Robur, Robur le Conquérant. La lutte qu'il semblait vouloir engager contre les ballonistes, puis sa disparition inexplicable. Mais ce fut une bien autre affaire, lorsque toute la ville apprit que le président et le secrétaire du club, eux aussi, avaient disparu pendant la nuit du 12 au 13 juin. Ce que l'on fit de recherche dans toute la cité et aux environs, inutilement d'ailleurs. Les feuilles publiques de Philadelphie, puis les journaux de la Pennsylvanie, puis ceux de toute l'Amérique, s'emparèrent du fait et l'expliquèrent de 100 façons, dont aucune ne devait être la vraie. Des sommes considérables furent promises par annonces et affiches. non seulement à qui retrouverait les honorables disparus, mais à quiconque pourrait produire quelque indice de nature à mettre sur leurs traces. Rien n'aboutit. La terre se serait entr'ouverte pour les engloutir, que le président et le secrétaire du Weldon Institute n'auraient pas été plus supprimés de la surface du globe. À ce propos, les journaux du gouvernement demandèrent que le personnel de la police fût augmenté dans une forte proportion, puisque de pareils attentats pouvaient se produire contre les meilleurs citoyens des États-Unis. Et ils avaient raison. Il est vrai, les journaux de l'opposition demandèrent que ce personnel fût licencié, comme inutile, puisque de pareils attentats pouvaient se produire, sans qu'il fût possible d'en retrouver les auteurs. Et peut-être n'avait-il pas tort. En somme, la police resta ce qu'elle était, ce qu'elle sera toujours dans le meilleur des mondes, qui n'est pas parfait, et ne saurait l'être.